Oh boy.
Je pense que c'est une maladie incurable. La maximite aiguë.
Oh boy. Ben, j'ai mes propres louanges à partager, mais ils vont partager à travers le message aujourd'hui. Je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles, Matthieu chapitre 14. Je suis content pour ce message. Ben, il y a donc bien des choses à dire là-dessus avec le message. Et, j'ai donné des petites hints des mondes.
Des indices,
ok. Maintenant, ça ne veut pas marcher. Oh, je vais redémarrer ça. Bien, d'abord pour... Oui, ça marche. Pour introduire ce message, bien, on va aller tranquillement. On va se rendre là. On va commencer... on va lire le passage, puis on va prier. Verset 22, on va commencer en verset 22 de Matthieu 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à la carte. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus attendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. On va parler aujourd'hui du le titre du message « Rester dans le bateau » et aussi comme un thème, on va voir le doute versus la dépendance. C'est un beau thème. Mais d'abord, on va prier. Seigneur, je te remercie, oui, tout à fait, que tu as déjà répondu par part des choses. J'ai hâte de partager tout ça avec le message. Alors simplement, Seigneur, je veux te donner la gloire et la louange pour tout ça. Et encore, même si les réponses sont là, je veux prier comme j'ai prié beaucoup. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, ce message va être avec ton autorité et ta sagesse et pas la mienne. Et merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, cette histoire se passe immédiatement après que Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. On sait l'histoire. En anglais, on dit « The feeding of the 5000 ». Est-ce qu'il y a un catchphrase pour ça en français?
La multiplication des pains.
La multiplication des pains, ok. On se dit différent, mais c'est bon. Mais cette histoire, c'est juste après, en verset 22, que Jésus a envoyé les disciples pendant qu'il renverrait la foule. La foule, c'était ceux qui étaient nourris par le pain et les poissons. Et il faisait ça, et tandis que pendant que les disciples étaient dans la barque, une tempête se lève et les disciples luttent dans la barque toute la nuit. Ça dit la quatrième veille de la nuit que Jésus est venu vers eux autres. La quatrième veille de la nuit, c'est genre 3 ou 6 heures du matin. Alors, c'était une grosse tempête. Toute la nuit, ils luttaient dans cette tempête. Peut-être la plupart de nous autres vont avoir seasick avec un...
Mal de mer
avec une tempête. Même toute la nuit, c'est noir. Ben, en tout cas, c'est quelque chose. C'est pas évident. Et voyant Jésus qui finalement il arrive vers la quatrième veille de la nuit, il marche sur l'eau, les disciples, pense que c'était un fantôme, mais Jésus dit « Rassurez-vous ». Et c'est important de voir les mots de Jésus. « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et Pierre demande, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la question que Jésus demanda après, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais la question, qu'est-ce que Pierre a douté? Parce que le doute, c'est quoi le doute? C'est incertitude, un état de l'esprit qui est incertain, interrogatif. Doute s'oppose à la certitude. Qu'est-ce que Pierre, de quoi était Pierre incertain? De quoi est-ce qu'il a douté? Le doute, c'est l'incertitude et tout ça. Lydia, maintenant, elle a commencé à faire du vélo sans des rudes formations. C'est-tu bien dit? C'est training wheels. Mais elle est capable de faire ça avec les pédales. Mais il faut que je la commence en se tenant avec mes mains pour elle aider. Elle est capable de le faire, mais des fois, elle doute qu'elle est capable de le faire. Mais si on doute, on ne peut pas réussir à faire des choses. Mais est-ce que c'est ça que je vais prêcher aujourd'hui? Il ne faut pas douter que tu es capable de faire des choses pour Dieu. Hey, pas des doutes, parce que le doute s'oppose à la certitude. Il faut être certain que tu peux le faire. C'est ça que je vais prêcher aujourd'hui. J'étais juste là, pasteur, à dire, j'espère que non. Mais on va voir tranquillement. Je ne peux pas gaspiller des trucs de massage. Mais on va voir ce qu'on dit quand on parle de doute. Mais le doute, je dirais, est la plus forte distraction de Satan. C'est pourquoi il disait en Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Il semait le doute dans les pensées d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le doute nous fait oublier ce que Dieu a dit. Et en réalité, le doute est un manque de foi. Marc, chapitre 11, verset 23, ça dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » On va revenir probablement, si je me souviens de ça, à ce verset-là, à voir en contexte de le doute versus la dépendance, ce verset-là, en contexte. Parce que, tout à fait, on peut le voir. Et s'il ne doute point à son cœur, si on ne doute pas, moi je suis capable de faire jeter les montagnes dans les eaux, si je ne doute pas à ma capacité. On va revenir là-dessus. Tantôt. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui, agité par le vent, est poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, on constate dans toutes ses voies. Je vais amener un message. C'était le message que j'ai pensé à amener aujourd'hui. Je vais prêcher en le mois de juin. Jacques 1, 5 à 8, comparé avec Proverbes 3, 5 et 7, par rapport à la sagesse. Mais quand ça dit ça, sans douter. Mais douter quoi? Je pense que ça parle de la dépendance. Il faut dépendre de Dieu. Alors, le doute est l'opposé de la dépendance. Mais on va décortiquer tout ça dans le message, j'espère. On voit d'abord le premier point, la direction de Jésus. Il disait en verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. » La direction de Jésus. Il y avait un plan pour les disciples. Il y avait sa volonté pour les disciples, sa direction en les envoyant sur la mer, jusqu'à l'autre côté. Il y avait son ordre à obéir. Et c'est pour nous autres que Jésus, des fois, il nous envoie à faire quelque chose, il nous donne sa direction, mais dans le même sens que Jésus a suivi la direction de son Père aussi. Jean 6, verset 38, ça dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 14, 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Et ça, c'est dans ce sens-là, même que Jésus était envoyé, il disait dans Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » On voit la direction de Jésus, et dans notre histoire, Jésus a donné les directions. Et il faut dans notre vie qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit, par le Seigneur, pas à faire nos propres choses, mais à suivre la volonté de Dieu. On va voir ça avec tous les autres points aujourd'hui. Mais on voit simplement que Dieu a envoyé les disciples. Psaume 31, verset 4, « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, Proverbe 3, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Une autre traduction de ça, c'est « et il dirigera tes sentiers ». L'idée que « il me conduit ». Comme on chante. Est-ce que tu es dirigé, tu es conduit par Dieu dans tes voies, dans tes pensées, dans ce que tu fais? Et on peut demander, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment marcher par l'Esprit et tout ça? Et tout ça, ça prend la foi. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la foi. Mais c'est quoi la foi? Dans ce sens-là. Souvent, c'est dit, la foi, c'est de prendre Dieu au mot. Et ça sent bon, mais ça veut dire quoi encore? Si on explique quelque chose avec quelque chose d'autre qui a besoin d'explication, c'est comme, OK, c'est comme à les enfants. Je dis un nouveau mot à Lydia, je ne sais pas des exemples maintenant, mais je dis quelque chose, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Puis les mots que j'utilise pour expliquer ça, elle ne sait pas des mots non plus, fait que c'est comme... Il faut expérimenter pour savoir, tu sais. C'est difficile, mais c'est quoi? OK, de prendre Dieu au mot, la foi, ben OK. La foi, Dieu, croire ce que Dieu dit. Ben, c'est bon, mais c'est qu'on utilise les mêmes mots, les synonymes pour expliquer. La foi, c'est quoi la foi? C'est à croire. C'est quoi à croire? C'est d'avoir la foi. OK, ça m'aide pas vraiment. Parce qu'il y a des gens qui croient, n'est-ce pas? Au monde, « Oh oui, je crois en Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. » Parce qu'ils croient en le bien et le mal, mais pas la vie. Une autre expression pour expliquer la foi, c'est pas de croire que Dieu peut, mais d'agir comme s'il va faire quelque chose. Ça, c'est bon, mais pour résumer tout ça, j'avais cette... citation, cette chose pour expliquer la foi, il y a longtemps, mais c'est toujours vrai, je pense, parce que ce que je dirais, c'est la foi biblique, la vraie foi biblique est une action ou un engagement personnel qui est fondé sur et influencé par les promesses de la parole de Dieu. Je vais le dire encore. La foi, la vraie foi biblique est une action ou un engagement personnel qui est fondé sur et influencé par les promesses de la parole de Dieu. C'est un engagement basé sur la vérité. Parce que la vraie foi, ce n'est pas juste des pensées beaux, comme l'illustration qui est bien simple et bien vieux de s'asseoir dans une chaise. Je ne peux pas avoir la foi si je tiens debout. La vraie foi, c'est l'action de se reposer sur la chaise. C'est pourquoi je dis la foi, c'est une action. C'est un engagement personnel fondé sur et influencé par les promesses de la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, pour comment suivre la direction de Dieu, ce que Dieu nous dirige à faire avec la foi, avec une action, avec un engagement, avec un commitment.
Engagement.
Oh oui, c'est ça. Avec un engagement basé sur la parole de Dieu. Et pas nos pensées, pas ce que nous pensons est bon. Ça fait bon sens à faire ça, mais c'est-tu fondé sur ça? Et là-dessus, j'ai des études sur la volonté de Dieu que je peux amener pour des jeunes un jour, mais vraiment, c'est impossible à savoir la volonté de Dieu pour le futur si on ne le suit pas actuellement. C'est vraiment, c'est pas, on ne doit pas étudier beaucoup pour savoir si c'est la volonté de Dieu pour les chrétiens de rassembler ensemble, pas nécessairement les dimanches, mais en tant qu'Église, en tant que le corps de Christ, c'est la volonté de Dieu d'être ensemble avec les chrétiens. C'est pas, ben, c'est-tu vraiment la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu, c'est clair, c'est fondé sur la parole. C'est la volonté de Dieu pour les chrétiens de demeurer purs. Et tout à fait, on apprend avec, c'est pas les efforts de la chair, mais c'est ce que les chrétiens ils font quand c'est Jésus en nous. C'est ça, la volonté de Dieu. Fait que si on ne fait pas la volonté de Dieu qui est claire, comme Elizabeth Elliot a dit, je vais citer, « Est-il utile de prier pour être guidé dans l'avenir si nous n'obéissons pas à ce qui nous attend aujourd'hui? Combien d'événements importants dans les Écritures ont dépendu de l'acte d'obéissance apparemment minime d'une seule personne? Rassurez-vous, faites ce que Dieu vous dit à faire maintenant. » Et soyez-en sûrs, il vous sera montré ce qu'il faut faire ensuite. Amen. Et je veux noter ici aussi dans ce point-là, que Jésus, qu'est-ce que Jésus disait? Montez dans la barque et passez de l'autre côté. Il disait déjà l'autre côté. Et c'est important pour nous suivre à le deuxième point du message. Parce que oui, tout à fait, la tempête est levée. C'était difficile. C'était une épreuve dans leur vie. Mais Jésus a dit, passez à l'autre côté. L'état final, c'était déjà dit par Jésus, l'autre côté. Mais il y avait peur dans le bateau quand, deuxièmement, on voit la direction de Jésus, mais la détresse des disciples. Toute la nuit, je pense qu'ils ne vont pas dormir bien dans une tempête. Mais sauf que Jésus le faisait. Si on est Jésus, on peut dormir dans le bateau pendant la tempête, mais si on n'est pas Jésus, on n'est pas capable de faire ça, j'imagine. Et c'est intéressant à noter que par leur obéissance, les disciples se trouvaient dans une tempête. En suivant la direction de Dieu, ils étaient dans une tempête. Mais, comme on a vu beaucoup dans notre église, Dieu utilise les tempêtes pour nous fortifier. Et pas dans le sens de nous fortifier, ah, je suis fort parce que je passais à travers des épreuves. Mais surtout de fortifier notre foi, notre dépendance. Et je n'ai pas mis dans mes notes, mais dans l'autre message, vieux message que j'ai prêché là-dessus, je faisais, j'oublie le chapitre, mais les disciples étaient déjà dans une tempête. C'est là où est-ce que Jésus était dormi dans le bateau. Ce n'était pas la première tempête. Mais quand même, une autre tempête, une autre épreuve arrive et « Ah! C'est la fin du monde! » Ben non, Jésus a dit « À l'autre côté, tu vas arriver à l'autre côté malgré les épreuves qu'on vit pendant. » Et c'est pour fortifier la foi, la dépendance que, oui, Dieu les a mis. Et c'est ça que je veux apporter pour, j'approche le truc. Restez dans le bateau. Dieu les a mis dans le bateau. C'est là l'endroit parfait de la volonté de Dieu. Et il a dit, par là, à l'autre côté. Mais puis la tempête arrive. Mais la détresse. Mais c'est pour fortifier leur foi. C'était l'homme qui était né aveugle. C'est intéressant parce que j'ai enlevé ça des notes, mais je vais aller là-dessus encore. L'homme qui était né aveugle, c'est qui a péché, Seigneur? C'est-tu lui ou ses parents? Mais pas en tout, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La preuve pour voir sa gloire, pour fortifier notre foi. Jacques, encore Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La chanson « Réjouis-toi, mon cœur, en Christ, notre roi. » J'oublie comment ça va en français exactement, mais la traduction directe de l'anglais, réjouis-toi mon cœur, le fait qu'il fait point d'erreur. C'est ça que je veux dire. Il fait point d'erreur. Les épreuves qu'on vit sont des occasions pour Christ se manifester dans nos vies. Et c'est dans les circonstances de la détresse que notre dépendance est vraiment mise à l'épreuve. De dépendre de lui. On parle de, on est presque là, les doutes. L'incertitude. Mais même dans les temps d'incertitude, notre foi reste certaine. Notre dépendance peut demeurer certaine parce que ce n'est pas en nous, c'est en Jésus, notre dépendance. Mais tout à on voit prochainement, dans cette détresse, la tempête, Jésus n'est pas arrivé à le bonheur au moment où est-ce que peut-être les disciples voulaient. Parce que ça dit, au quatrième... À la quatrième veille de la nuit, j'ai dit déjà, c'était entre 3h et 6h du matin. Mais Jésus, ça dit, aussitôt après il a nourri les 5000, plus que 5000, il montait dans la barque. J'imagine que c'était pas minuit, cette heure-là, probablement, peut-être 8h, je sais pas exactement. Mais c'était pas, mettons, 2h au matin qu'il renvoyait la foule. Fait que c'était pas juste, OK, une heure de tempête. C'était une longue tempête pour les disciples. Dieu n'a pas sauvé vite, vite, comme on dit. C'était un délai. Cette fois, Dieu, on est dans l'épreuve, viens au secours. Pas encore. Mais c'est pas le rejet de Dieu. C'est pas le... Dieu ne soucie pas de nous autres. Dieu répond pas immédiatement tout le temps. On pense à Lazare. Je veux lire des versets longs. On peut tourner dans Jean chapitre 11. Plusieurs versets, je veux lire. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Encore, l'épreuve, ce n'est pas pour nous battre, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais pour nous fortifier. C'est pour révéler la gloire de Dieu aussi. Or, Jésus aimait Marthe et la sœur de Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. OK. Et Jésus, je vais répéter, t'as-tu entendu? Lazare, il va mourir, là. C'est pas juste, il y a un rhume. Va mourir. Ben, c'est correct, je vais rester 2 jours. OK. Il répond pas immédiatement, tout le temps. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'était bon que Jésus n'était pas là. Et tout le passage de Lazare, on le connaît bien. Pour la gloire de Dieu. Mais pas dans nos timings. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Dieu t'a pas fait des choses comme je voulais. » Et c'est même pour les disciples dans notre histoire. T'es pas content, j'imagine, d'être là toute la nuit. C'était pas une party. Comme le pasteur dit souvent, les souffrances, oui, c'est... un sujet de réjouissance, pas dans le sens de reconnaissance, pas dans le sens de « Wouhou, je suis dans une épreuve, yeehaw! » Non, c'est dur, c'est triste. Et Dieu répond pas à nos timings. Mais une question que quelqu'un demandait une fois, si toutes nos prières sont exaucées comme nous le souhaitions, qui en recevra la gloire? Ça nous mène vers le troisième point, le doute de l'effrayer. On voit les disciples, c'était dans la volonté de Dieu, dans la barque, la place où Jésus leur a mis, dans sa volonté, sécure, en suivant sa direction. Mais la détresse, la tempête. Puis, Jésus, il disait, « Rassurez-vous, c'est moi. » La bonne réponse, oh, « Jésus est là. Bon, » je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Je suis incertain des circonstances, mais je suis certain que je peux dépendre de Dieu. Il a dit, à l'autre côté, il est là. Oh, c'est correct. Amen. C'était quoi la réponse? Si, c'est toi. Si, c'est toi. Fais ça. Dieu, si c'est vraiment toi, tu vas faire ça. Puis sorti de l'endroit où est-ce que Dieu lui a mis dans l'abattoir. Et je veux dire, en passant, je n'ai pas expliqué, toutes les explications qu'on a entendues prêcher sont valides. Les explications, des applications de massage de sort du bateau, c'est tout valide. Je ne vais pas, comment dirais ça, dire non, c'était tout faux, chaque fois c'était... Non. Mais c'était juste une fois que Dieu m'a montré ce que je vais prêcher là. Alors, juste pour rassurez-vous, je pense pas tout le monde était avait tort. Non. Mais allons-y, continuons-y. Parce que j'ai vu, c'est moi, n'ayez pas peur. Si c'est toi. Jésus disait, c'est moi. Puis il doutait. Et des fois, dans les épreuves qu'on expérience à cause de notre obéissance, comme on a vu. Dieu, si c'est toi, tu vas enlever. Dieu, si c'est toi, tu vas faire cela, tu vas faire cela. Puis on doute que Dieu est bon et on doute que Dieu a un plan pour nous autres. On doute la volonté de Dieu, la direction de Dieu. On doute peut-être que Dieu peut pouvoir. Lorsqu'on est dans la tempête, la détresse, les épreuves. Dieu, si c'est toi, j'ai dit, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Dans le beau québécois. Laissez pas le doute vous éloigner de l'endroit où Dieu veut que vous soyez.
Amen.
Dans la parfaite volonté de Dieu. On parle encore de la dépendance. On parle de la contrôle, ça fait avec le massage du matin. Est-ce qu'on a confiance que Dieu est bon, que Dieu a son plan pour nous autres? Pierre était dans l'endroit parfait de Dieu, mais il disait, si c'est toi. Et là-dessus, je veux voir quand Jésus disait, c'est pourquoi je vais wrap it all together. Et on disait, pourquoi as-tu douté? Mais qu'est-ce qu'il a douté? Doute, incertitude. Pierre, pourquoi as-tu douté que tu étais capable de marcher sur les eaux? Pourquoi as-tu douté que tu pourrais réussir à faire ça? Mais ça ne fit pas, je pense. Parce que dans l'Écriture, la seule chose que, quand le Seigneur m'a montré ça, la seule chose que Pierre a dit comme doute, si c'est toi. Ce n'était pas la dépendance. Il pourrait dire, je suis dans le bateau, Dieu m'a mis là, il a dit l'autre côté, il est là. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, les situations, les circonstances sont incertaines, et ça c'est correct, mais notre dépendance, c'est certain. Mais sinon, on dit, si c'est toi, fais cela, c'est-tu vraiment toi, Seigneur? J'ai parlé de la foi et la dépendance en Dieu est ce qui bannit le doute. Et on parlait de la parole de Dieu. Pour Pierre, rassurez-vous, c'est moi. C'était aussi puissant que ça. C'est écrit dans la Bible. C'était la parole de Dieu. Qu'est-ce que Pierre disait? Je le doute. Je doute ta parole, Jésus. Je doute que c'est toi. Si c'est toi, tu vas faire ça. Si c'est toi, on n'aurait pas dans la tempête, Seigneur. Si c'est toi, laisse-moi sortir vers toi. Pierre, pourquoi as-tu douté? Je t'ai mis dans le bâton. Je t'ai dit, l'autre côté, je suis là. Encore toutes les explications, toutes les applications, comme c'était prêché auparavant, c'est tout valide dans ce sens-là, mais de voir un autre côté de l'histoire.
Amen.
la dépendance, la direction de Dieu, mais le doute. Un engagement basé sur la vérité, la parole de Dieu. La foi n'est pas la croyance que Dieu fera ce que vous voulez, mais la croyance que Dieu fera ce qui est juste. Pas dans nos timings, pas dans la façon qu'on veut. Restez dans le bateau.
Amen.
Une autre application que je vais apporter maintenant. Et je suis tout content que Dieu a déjà répondu. Ce message que je prêche, est-ce qu'il y a une situation à laquelle ça vous fait peut-être penser?
Moi, je me sens pas mal Pierre. Je suis pétrifié. Je me sens pas mal Pierre. Je ne vais pas parler de coup de jurapé. Yes.
Ce message que je prêche maintenant,
ouais.
C'était déjà en ligne d'être prêché avant que Pasteur soit envoyé le courriel. Fait aujourd'hui, c'est pourquoi je disais, Dieu, laisse-moi pas même tiens debout à prêcher si c'est pas toi. Parce que je veux dire rien à mon autorité. À dire, hey, on va aller à Coujarébic parce que là, non, c'est pas moi qui décide non plus. Mais Dieu a déjà mis ce passage, ce message, il y a plusieurs semaines avant le courriel de Pasteur Juan. Puis quand le courriel était envoyé, j'ai pensé, hey, c'est intéressant le message. Je n'étais pas prévu à prêcher le message dans ce sens-là, mais ça fit quand même. Hein? Puis c'était comme, hey. Et là, je ne pointe pas les doigts dans le sens que, hey, tu penses, Dieu, c'est-tu vraiment toi qui nous envoie là? Parce que moi, j'ai dit, Dieu, c'est-tu vraiment toi qui m'a dit à prêcher ce message? Alors, tout ce que je prêche maintenant par rapport à rester dans le bateau et doute pas ce que Dieu fait. J'avais les mêmes doutes en moi par rapport au message. Alors, je me joins avec vous autres dans le sens que Dieu, c'est vraiment toi? Je sais pas si c'est vraiment toi qui dirige. Alors, c'est pour, genre, une illustration pour m'identifier avec tout le monde ici que oui, je comprends. Et aussi, c'était comme Dieu. Pourquoi donnerais-tu moi ce message à prêcher? Je ne suis personne à apporter genre une confirmation de Dieu. Je ne suis personne à faire ça dans un message, à donner la confirmation de Dieu. Pourquoi moi, Dieu? Alors j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, tu peux donner une confirmation à Pasteur Roy avant que je prêche. Il faisait.
Il l'a fait.
Il l'a fait.
Amen.
Une autre chose, mercredi soir, on parlait de ça, je lutte éternellement. Dieu, peut-être, dois-je le dire maintenant? Dois-je partager ce que j'ai, que tu m'as mis à mon cœur maintenant, ou dois-je attendre pour dimanche? J'étais vraiment mal à l'aise. Comme, je pense, j'avais déjà la confirmation de Dieu à prêcher. Je pense que j'ai la confirmation, mais... Est-ce que je dois le prêcher? Est-ce que je dois le partager là, mercredi soir? Mais dans le temps de prière, je prie, Seigneur, merci, tu viens juste me donner la paix. Il m'a donné la paix à attendre. Dans le sens que la réponse est en chemin.
Amen.
Et avoir l'incertitude. Mais ouais, même quand on prie, la réponse est déjà en chemin. Il m'a donné la paix à attendre. Et puis, ce matin, Dieu a déjà répondu.
Amen.
Et ça m'a donné vraiment la paix. J'avais déjà ce matin la paix à prêcher. Je préparais ce matin, puis c'était comme, OK, j'ai l'assurance de prêcher le message. Puis je suis arrivé à l'église, puis le pasteur disait, c'est confirmé. J'étais comme, hey, je peux quand même prêcher, c'est beau. Je pense que c'est tout ce que je vais dire ça. pas tout, mais dans le sens que le suivage de cette histoire en préparation pour ce message, mais Galates 6. Tournez Galates 6. Oui, tout à fait. Dieu nous a mis dans le bateau. Voyage, je répète. Oui, les tempêtes arrivent. Et oui, la question est là. Dieu, c'est-tu vraiment toi? Mais il dit, ben, j'ai dit, doute pas. Ayez la dépendance en moi. Et en priant ça, en préparant le Seigneur, c'est ça le message que tu avais pour moi à prêcher. Mais ça s'applique-tu à le voyage, que je répète? Dois-je prêcher de même? En priant, il a donné ce verset à mon pensée. Et je vous dis, j'avais aucun mot à dire. J'ai pris le genou en disant, Seigneur, écoute la prière de mon cœur, j'ai aucun mot à dire. Parce qu'il m'a donné mes pensées, Galates 6, 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.
Amen.
Et Dieu m'a donné ce verset dans le sens que on a l'occasion, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout notre frère, nos frères et nos sœurs isolés dans la foi. Et quand, j'ai dit, même quand j'avais ces versets dans ma tête, Dieu, c'est vraiment toi? Et quand j'ai eu la paix dans mon cœur, sérieusement, j'avais aucun mot. Et je suis content vraiment que Dieu a déjà répondu avant que je prêche ce message. Alors, je pense que je vais terminer là. Il y a juste les mots de conclusion. La délivrance des troubles, le quatrième point. On voit la main de Jésus et a étendu la main pour sauver. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je soutiens de ma droite, triomphant. Regardez la main de Jésus, sa main qui comble les tempêtes, sa main qui pourvoit nos besoins, ses mains qui ont été percées pour nos péchés. La main de Dieu, la voix de Jésus, il dit, et il parle à Pierre, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On voit la voix de Jésus. Écoutons la voix de Jésus et la présence de Jésus. Verset 23. Je suis dans Galates 6, ça va pas de bon sens. Matthieu 14, 33, 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Dieu nous délivre vraiment des troubles, des épreuves, la présence de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, restons dans le bateau. Dieu a quelque chose pour nous et je veux dire, les épreuves, même les attaques spirituelles, ne vont pas cesser. Ne vont pas arrêter. On va aller à Coujarapic, on va voir peut-être, qui sait. Mais dans les temps de détresse, Dieu a déjà dit, à l'autre côté, on ne sait pas ce qui va arriver en traversant vers l'autre côté. Mais le bateau est la place où est-ce que Dieu nous a mis. Le doute ou la dépendance.
Amen.
Comme, je ne sais pas comment c'était dit ce matin, dans le sens de le contrôle. Est-ce qu'on peut faire confiance? C'est ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Peu importe que nous arrive. Parce que oui, les épreuves, les tempêtes ne sont pas finies. Mais Dieu nous a donné sa parole. Rassurez-vous, c'est moi. Restez là. C'est correct. Et je suis bien correct. Je suis bien content de voir à quel point Dieu a déjà pourvu sa confirmation. Et je suis content que ce n'était pas ce message. Dans le sens que je suis content que c'était Dieu.
Amen.
Et pas moi. Alors, restons dans le bateau. Dans ça et dans les autres situations de la vie, les détresses, les problèmes, des temps que on veut lâcher la serviette. Je suis content qu'en 2022, Pasteur Roy n'a pas lâché. Qui est toujours là, qui est resté dans le bateau.
Amen.
Pour tout le monde ici, même ceux qui ne sont pas ici, qui ont des raisons de ne pas être ici, qu'on a notre église, son église, qui est toujours dans le bateau, en disant, on ne va pas dire Dieu si c'est toi. Il a dit, dépendant nous, en sa parole.
Amen.
Seigneur, merci. On n'a rien à dire, Seigneur, mais juste merci que tu as répondu. Oui, que tu as mis ce message. Et oui, ces versets, pratiquons le bien pendant que nous en avons l'occasion. Merci, Seigneur, que tu nous as donné cette occasion, cette belle occasion d'apporter la lumière de ta parole. Oui, comme c'était dit vraiment souvent, dans les endroits ténébreux, Seigneur. On s'attend pas d'avoir un chemin facile, calme, tranquille. Oui, on va avoir des tempêtes, mais Seigneur, donne-nous la foi de dépendre de toi, d'avoir les actions, les engagements fondés sur ta parole. Merci que tu nous as donné ta parole et ton esprit pour nous guider dedans, Seigneur. C'est beaucoup qu'on peut dire, c'est beaucoup qu'on pourrait ajouter. Oui, tout à fait, je pense qu'on pourrait avoir dire beaucoup plus de choses, mais on va juste dire gloire à toi et merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.